crois que je vais faire en sorte de faire la louange ou de prêcher tous les dimanches. Comme ça, je peux enlever le masque. Vous m'entendez bien? Ouais, ça va? C'est propre comme son? Ça convient au fond? Moyen, on me dit. Ouais, 1, 2, 3, c'est bon? Ouais, on démarre. Okay, super. Bon, bonjour à tous. C'est sympa parce que les rangs se remplissent après qu'on ait démarré le culte. Voilà. On démarre, on est moins nombreux. Quand on est devant, là, on se retourne après pour prêcher. On se rend compte qu'il y a plus de monde. Je vous encourage vraiment à être là à 10h, s'il vous plaît. Et puis même avant 10h, on va. Les contraintes font qu'on ne peut pas forcément faire un café facilement pour tout le monde. Mais profitons de la communion fraternelle avant 10h pour pouvoir vraiment démarrer le culte ensemble à 10h. Je crois que c'est quelque chose d'important et que vous n'arriviez pas en catimini. Vous puissiez profiter d'être accueilli et d'accueillir vous aussi ceux qui rentrent. C'est vraiment quelque chose qui est important dans cette dimension de communauté. Alors, le verset du jour. Hein, il y a un verset du jour que vous recevez peut-être parfois. Notre verset du jour, Luc 19, verset 40, vous avez reçu ça par mail normalement. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Alors tout ça c'est dans Luc et je vous propose qu'on le lise dans Luc 19 à partir du verset 36. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, Jésus, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Un verset qu'on connaît certainement tous. Je trouve que c'était important de le regarder dans le contexte où il était posé là. C'est un verset qui va nous accompagner aujourd'hui, qui nous a accompagnés tout ce week-end. C'est un verset qui va nous accompagner cette année. Vous savez qu'on aime bien avoir un verset qui ne soit pas le verset slogan de l'année, mais il nous semble que c'est un verset qui avait du sens pour nous cette année, et puis on va regarder pourquoi. Et je parlais de contexte, et c'est important, si on veut que ce soit un verset qui nous accompagne toute cette année, eh bien c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il nous dit exactement ce verset? Dans quel contexte il est posé? De quoi il est question là dans cette histoire? Et je vous le dis tout de suite, pour bien comprendre ce verset, on doit comprendre que dans cette histoire, tout tourne autour du roi. Tout tourne autour du roi et il est question du roi. Et ça, c'est central dans cette histoire. Et si on veut bien comprendre ce verset qui va nous accompagner toute l'année, je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Tout ça, ça tourne autour du roi. Ok ? Donc on met bien le roi là, en focus à un moment donné dans notre tête là ou dans notre cœur et on le garde tout au long de ce message. Il est question du roi et toute cette année, il est question du roi aussi. Je vous rappelle qu'on l'a annoncé hier et pour ceux qui n'étaient pas là, je le répète ce matin. Tout le premier trimestre et puis peut-être un tout petit peu plus, on va parcourir le livre de Matthieu. Donc on vous encourage à lire Matthieu chez vous en avance pour pouvoir véritablement profiter dimanche après dimanche de ce qu'on va parcourir dans ce livre-là. On va le prendre de manière chronologique, hein, du 1 jusqu'à la fin. On va faire des découpages là-dedans et on va regarder au sein de l'évangile de Matthieu comment Jésus se révèle. On va regarder à Jésus et c'est encore ce qu'on va faire ce matin. Pas dans Matthieu, dans Luc, mais c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc, tout tourne autour du roi. Dans le contexte de ce verset, Jésus est là sur la terre, il s'approche de Jérusalem et tout Israël attend le Messie. Voilà l'attente qu'il y a. Depuis toute l'histoire d'Adam et Ève et toute l'histoire d'Israël qui a suivi, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule attente ardente, c'est que le Messie vienne. Le Messie, c'est le sauveur, c'est le grand roi, c'est le roi d'Israël, un roi qui est pas seulement un roi spirituel, mais qui est aussi un roi politique, qui va venir amener la paix dans la nation d'Israël, la paix sur le peuple d'Israël, et qui va régner au milieu de son peuple et amener la paix et la joie au milieu de son peuple. Voilà l'attente d'Israël, le Messie, un Messie qui a été prophétisé par tous les prophètes successifs qui ont dit « c'est celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le fils de David, c'est l'héritier du trône, il est décrit de mille manières ». Mais tout converge vers le fait qu'Israël attend son roi. Israël attend son roi. Et c'est l'attente d'Israël au moment où on parle dans ce verset, c'est encore l'attente d'Israël aujourd'hui. Israël est encore en attente de ce Messie qui doit venir. On reconnaît Jésus comme ce Messie, on sait qu'il est déjà venu. Mais c'est encore l'attente d'Israël aujourd'hui. Ils désespèrent dans leur cœur en disant « Oh Dieu, envoie ton Messie qui va amener la paix sur nous ». Jésus est déjà venu. Et c'est selon ce titre, parce que Jésus a eu un nombre de disciples très grand, il n'en a pas eu que 12, il y avait des foules qui accompagnaient Jésus. Et cette foule, elle est en train de célébrer Jésus qui arrive sur Jérusalem selon ce titre-là. Elle est en train de le célébrer selon le Messie. Elle est en train de reconnaître quand elle dit « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts », pardon, je n'avais pas la fin du verset, il est vraiment question de Jésus en tant que Messie. Donc voilà comment la foule, elle est là devant les portes de Jérusalem, elle est en train de dire « Béni soit le Messie qui est enfin là, celui qui a été envoyé par le Père sur nous ». Vous voyez qu'il est question du roi. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs vêtements. Ils jettent leurs vêtements au passage de Jésus. Ils étendent plein de choses là pour que Jésus passe, pour que à Cannes, vous savez, on met le tapis rouge pour que les stars elles passent. Mais là, c'est la même chose. On étend pour faire une route royale pour honorer ce roi qui vient au nom du Seigneur, ce Messie d'Israël. On vient pour honorer et préparer la route d'une entrée triomphale à Jérusalem. Jésus arrivait dans la ville sainte. Il n'arrivait pas nulle part. Il arrivait sur Jérusalem. Jérusalem, cette ville sainte. Cette ville, on en a parlé quand on a parlé de Néhémie et de la joie du Seigneur, hein, où on disait le temple était saint, et puis il y a eu une époque où la ville a été considérée comme sainte. Et Jésus arrive vers Jérusalem, cette ville sainte, et c'est le roi qui rentre triomphalement dans Jérusalem. Jésus, lui, il est où là? Il est sur son char, il est doré. Il est tiré par 4 chevaux et toute la foule l'acclame et il salue la foule. Vous avez l'image ou pas? Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein, ouais, c'est bien. Il y a quelque chose qu'on n'a pas lu en fait au tout début de cette histoire. Mais Jésus, il est juste monté sur un petit ânon. Il est juste monté sur un petit ânon. Il ne vient pas comme un roi. Et c'est intéressant de regarder ça. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas comme un roi? Pourquoi est-ce que, alors que la foule acclame Jésus, pourquoi est-ce qu'elle salue le triomphe du Messie qui est là parce qu'elle le reconnaît comme tel? Pourquoi lui, Jésus, ne vient pas comme un roi à l'image des hommes? Pourquoi il ne vient pas entrer triomphalement sur un char? Bien, en réalité, Jésus, il est déjà roi. Et ça change tout. Jésus, il est déjà roi de toute éternité, et Jésus, il n'avait pas besoin d'être couronné par des hommes qui se sont choisis un roi. Et ça, c'est vraiment très important de positionner Jésus comme ça, de positionner ce roi comme non pas un roi qui a été choisi par les hommes, un roi qui a été couronné sur la terre. Il y a des chants, il y a un vieux chant qui disait « Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi ». Et j'ai rien, je comprends ce qu'il y a derrière, mais quelque part, c'est faux. Nous ne pouvons pas couronner Jésus. Il a déjà été couronné avant même que je sois sur cette terre, avant même que j'existe. Et donc Jésus n'avait pas besoin d'un char doré. Jésus n'avait pas besoin d'être tiré sur 4 chevaux. Il n'avait pas besoin de saluer la foule en mettant la main en demi-paume comme ça, vous savez, comme les souverains font en passant. Il n'avait pas besoin de tout ça. Il était déjà roi. Et donc, même si ce n'est pas comme un roi, que Jésus entre à Jérusalem, c'est en tant que roi qu'il s'approche de Jérusalem. Et ça fait vraiment toute la différence. Il n'avait pas besoin de superflu, il était le roi et il était reconnu comme ça. Et quand le roi est là, eh bien la louange, elle est là aussi. quand le roi est là, en tant que roi, pas parce qu'il vient comme un roi, à l'image d'un roi, mais parce qu'il est le roi. Et quand le roi est là, la louange, elle est là aussi. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. C'est le roi qui fait jaillir la louange là. C'est parce que le Messie est en train d'arriver que la foule, elle crie, elle hurle, elle chante. Il y a des clameurs, il y a des cris. Moi, je peux même vous assurer que c'était un véritable vacarme devant Jérusalem à ce moment-là. C'était un véritable vacarme. Pourquoi ? Bon, on en a un indice dans le mot que Jésus il utilise quand il dit « Mais s'ils se taisent, il faudra bien qu'il y en ait d'autres qui crient à leur place, qui fassent la même chose que ce qu'ils étaient en train de faire. » Et ce mot qui est utilisé pour crier, pour les pierres, c'est le mot krazo, K-R-A-Z-O, krazo. Et c'est un mot qui est aussi utilisé pour décrire le croassement d'une grenouille. Non, le croassement du corbeau, pardon, et le coassement des grenouilles. Je ne sais jamais dans quel ordre ça se fait. Mais c'est utilisé pour ça. Et c'est un mot qui prend ses racines dans cette notion d'un cri qui est primaire, un cri qui est brutal, un cri qui est incontrôlable. Et il y a d'autres mots qui existent pour dire que ce serait un cri qui vient des sentiments. De dire « j'avais tellement de joie que je criais de joie ». Non. Ou alors le cri d'un appel à l'aide. La détresse qui me fait crier, quelque chose qui, bon, d'un coup, me fait crier. Non. Il y a d'autres mots pour ça. Là, il est question d'un cri brutal, primaire, bestial, complètement profond, intérieur, incontrôlable. Vous voyez de quel cri il s'agit ? Ça devait être un sacré vacarme. Ça devait être un sacré vacarme. Je pense qu'on en a un peu l'idée quand on se trouve dans un concert, là, qu'on est dans la fosse, qu'on a des ultra-fans autour de nous. Hein, il y en a toujours, hein, il y a des concerts où il y a des ultra-fans de ces stars-là et qui vocifèrent du début jusqu'à la fin, où ils sont complètement exaltés dans un état second. Je pense que c'est pas loin de ce qui se passe là. Ou alors quand vous savez quand il y a un peu de tension là, parce qu'il y a un match là, il y a une équipe, elle est juste menée au score. Il lui faudrait juste un but pour être qualifié. Et il se trouve que on attend. Il y a des occasions. Et là, dans les dernières secondes, il y a une action juste magnifique et il y a le but qui rentre. Et là, il y a une waouh. On dit qu'il y a une explosion de joie. Honnêtement, je pense que c'est plus qu'une explosion de joie. Il y a une dimension de libération, il y a une dimension d'extériorisation de quelque chose, une attente qui était contenue, qui était là, et qui est plus que juste « je suis joyeux ». Vous me suivez ? Ok ? C'est un peu la même chose aussi que quand on obtient enfin quelque chose qu'on attendait ardemment depuis très longtemps. Il y a quelque chose au fond de nous là, qui monte, qui est plus que juste la satisfaction de l'avoir eu. C'est plus profond, c'est plus grand, c'est plus large. On n'a pas forcément des mots exacts pour le décrire différemment du reste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça vient de plus profond. Et donc, c'est à ce type de cri que Jésus y fait référence. Quand il dit « s'ils se taisent, les pierres crieront ». C'est l'expression d'une passion qui est complètement démesurée. Voilà comment était la foule. Elle reconnaissait son Messie. Ce Messie qui a été attendu pendant combien d'années ? Pendant combien de milliers d'années ? Et là, la foule, elle est en train de dire, il est là, ça y est, il est là. L'accomplissement de toutes les promesses, l'accomplissement de toutes les prophéties, il est là devant nous. Cette passion incontrôlable. Depuis quand ça ne vous est pas arrivé ? Depuis quand ça ne nous est pas arrivé ? De répondre à cette révélation de Christ, le roi des rois, au-dessus de tout, et qui fait jaillir en moi une louange digne de son nom. Parce que c'est ça que le roi y fait. Le roi y fait jaillir la louange. Alors depuis quand ça nous est pas arrivé ? Depuis quand ? Que personne ne se sente culpabilisé ce matin par mes propos. Je nous interpelle tous. Depuis quand ? Depuis quand ça nous est pas arrivé de hurler tellement on a un bonheur indescriptible dans nos cœurs de penser juste que Jésus est là, que le roi est là et qu'il mérite toute adoration et toute gloire. Depuis quand ? Hier, on a crié, hier soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, dommage. Honnêtement, j'ai pas d'autre mot, dommage. C'était tellement bon, je savais le message que j'avais préparé pour ce matin, et j'étais là hier, je me disais, oh, mais on y est déjà. C'était tellement bon de sauter, de danser, de pas se contenir, de juste crier, mais Jésus, combien tu es grand et merveilleux, ô Père, ton amour, combien il est puissant, Saint-Esprit, combien tu nous révèles toutes choses, combien c'est merveilleux. Waouh! C'était excellent. Et de faire ça tous ensemble, en famille, avec les enfants. Et ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est que nous devons répondre au roi. Voilà. On a cette responsabilité. Et c'est une partie de ce que ce verset il nous dit. Si eux se taisent, les pierres crieront. C'est qu'il est de notre responsabilité de crazo. Il est de notre responsabilité de croasser ensemble. De coasser ensemble. De crier ensemble. Ça ne veut pas juste dire que quand on se retrouve, on doit toujours hurler à la mort. Ce n'est pas cette question-là. Mais on doit laisser cette louange jaillir. Cette louange jaillir. Ok? Je ne transpire pas de la louange, même si quand je fais la louange, je transpire souvent. Elle jaillit du fond de mon cœur. Et donc, ce n'est pas juste, et excusez-moi, messieurs, dames, ce n'est pas juste en priant dans mon cœur que je crade. Combien j'entends de personnes qui me disent, oui, mais je prie dans mon cœur. Oui, et Dieu connaît ton cœur, et Dieu entend, et Dieu honore ça. Mais tu as une responsabilité de crazo-é. On doit crazo, on doit ouvrir nos bouches et prier à haute voix, et pas juste en louant du bout des lèvres. Combien j'en ai qui me disent, j'ose pas chanter parce que je sais que je chante faux. Demandez à Farid s'il fait cas de comment il chante. Dieu a un accordeur. Et peu importe si on chante faux, ça s'accorde là-haut. On ne sait pas comment ça marche, mais ça s'accorde. Ça s'accorde, il n'y a pas de souci. Alors, crazo dans la louange, crazo dans nos prières. Ouvrons nos bouches, s'il vous plaît. Ouvrons-les. C'est tellement important. Le roi, il fait jaillir une louange du fond de nos cœurs et le cri de nos lèvres. C'est une juste réponse à ça. C'est une juste réponse. Donc louons à notre voix, exprimons de tout notre être, dansons, sautons, manifestons cette exultation que nous avons reconnu que le Messie est déjà venu, qu'il n'est pas à venir, il reviendra, mais qu'il est venu, ce Messie, et qu'il a déjà ouvert la voie vers cette paix sur son peuple. C'est notre première et c'est notre plus importante raison d'exister. Si vous demandez à quoi je sers, le but de ma vie chrétienne. Seigneur, pourquoi tout ça? La vie, à quoi ça sert? Pourquoi tu as créé l'homme? Je vous répondrai, entre autres, Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, grâce à Jésus. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Voilà l'objet et la raison d'être de toute notre vie. Célébrer la gloire de sa grâce. Crazo, de toutes les manières possibles. Crazo, les amis. Crazo. Crazo parce qu'on reconnaît le Messie. Crazo parce que le Messie vient. Amen. J'ai pas fini. Non, parce que j'aimerais juste nous enlever une pression des épaules. On peut, une fois qu'on a dit ça, avoir une forme de pression sur les épaules, de dire, mais ok, il va falloir que je produise tout ça. On va y venir après. J'aimerais juste enlever cette pression-là en nous disant que Dieu n'a pas besoin de notre louange. Dieu n'a pas besoin de ma louange. Même si j'ai été créé pour célébrer la gloire de sa grâce, la Bible me dit aussi que Dieu n'a pas besoin de ma louange. Il la recherche, mais il n'en a pas besoin. Dieu, il a tout créé pour que sa création tout entière lui rende gloire, mais pas parce que cette gloire, elle lui manquait. Jésus, son Père, l'Esprit, qui existait avant la fondation du monde, il ne leur manquait rien au moment où ils ont créé. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que ça m'enlève une responsabilité sur mes épaules de dire si je ne loue pas, quelque part, si on ne comprend pas ça, on va dire que si je ne crazo pas, j'enlève quelque chose à Dieu. Il lui manque quelque chose. Et les amis, non. Il ne manque rien à Dieu. Dieu, il est loué en tout temps. Et ce verset, il nous en parle. Il nous dit juste de manière complètement naturelle. Enfin, Jésus, on lui dit « Fais taire tes disciples » parce que ça devait être un vacarme épouvantable. Il leur dit juste « Mais si eux se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Pourquoi ?» Parce qu'il ne peut pas en être autrement qu'il y ait un crazo devant l'Éternel. Que quand le Messie est là, la louange jaillit. Il ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons juste une invitation à nous joindre à ce crazo de la création pour le roi. Dieu est loué en tout temps, depuis toujours, pour toujours. Et cette louange, elle existe déjà au sein de Dieu lui-même. Hein, on sait que Dieu est trois, il est un. C'est ce grand mystère d'un Dieu unique et un Dieu triple à la fois. Et tant qu'on va vouloir séparer ces trois, on va faire des erreurs. Et quand on va vouloir les unifier en une seule, on va faire des erreurs. C'est juste un mystère. C'est le trois en un. Il y a des lessives qui font du deux en un. Là, on a du trois en un. Et pourquoi c'est important de comprendre ça et de reconnaître aussi Dieu comme un Dieu triple? Parce que ça veut dire que le Père loue le Fils loue l'Esprit loue l'Esprit loue le Fils loue le Père et l'Esprit. Et il y a une louange perpétuelle au sein même de Dieu lui-même. Et donc, en fait, il y a un crazo éternel, je dirais, en Dieu lui-même. Et puis même devant Dieu, il nous est dit que l'armée céleste, que la myriade des anges loue en permanence. Donc il y a une louange, il y a. Et nous sommes invités juste à nous joindre à cette louange. Il y a Acte 17, versets 24 et 25 nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. » Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Ok, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc il n'a pas besoin de ma louange. Et ça veut dire que dans cette invitation à Crazo, c'est pas parce que Dieu a besoin de ça. C'est juste parce qu'il le recherche. D'accord? Et du coup, ma réponse n'est pas la même. Je ne réponds pas parce que Dieu a besoin, je réponds parce que Dieu aime et Dieu attend, c'est tout. Et ce n'est pas la même réponse, ce n'est pas la même chose. Ok. Et donc, Jésus, il a dit, si eux se taisent, les pierres crieront. Il n'a pas répondu, ils ne peuvent pas se taire. Il n'a pas dit, ah non, mais de toute façon, c'est... Je suis désolé, mais ça va être impossible. Je voudrais bien, mais ce n'est pas possible. Ils vont crazo jusqu'à la fin de la journée. Là, normalement, on est parti pour un moment, vu comment c'est. Ils ne peuvent pas se taire. Jésus n'a pas répondu ça. Il a juste dit que si effectivement ils se taisent, s'ils sont amenés à se taire, il y a quelqu'un d'autre qui va crier. Il met face au fait qu'il y a forcément un crazo devant lui quand il est là en tant que Messie. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité que nos lèvres, elles peuvent devenir muettes. C'est une réalité que nos bouches, elles peuvent se fermer. Alors, là aussi, il y a plusieurs mots qui existent pour se taire. Il y a eusukazo, qui signifie le silence parce qu'on est tranquille. C'est le repos. On est bien et on se tient juste silencieux. Ça, c'est eusukazo. Et ce n'est pas celui-là que Jésus il utilise dans ce passage. Et il y a un autre mot qui signifie sigao. C'est le silence à cause de la crainte. C'est le silence à cause d'un chagrin. C'est le silence à cause d'une anxiété terrible. À cause de quelque chose d'extérieur qui vient nous faire taire parce que notre cœur se serre et du coup notre bouche se serre aussi. Eh bien, ce n'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là non plus que Jésus l'utilise. Jésus l'utilise siopao. Et c'est le terme le plus physique et le plus externe, le plus primaire possible pour exprimer juste l'absence totale de parole. Jésus, il est complètement binaire, complètement primaire dans ce verset, quand il nous dit « si eux se taisent, les pierres crieront ». Il est complètement, il va chercher les extrêmes. Il dit « si eux sont dans une absence totale de parole, un mutisme physique, externe, physique, alors les pierres, elles vont se mettre à hurler quelque chose d'incroyable ». Voilà grosso modo ce que Jésus il nous dit. Si eux s'abstiennent d'ouvrir leur bouche. Alors pourquoi Jésus dit ça? Eh bien parce qu'il est le grand roi. Et que quand on reconnaît que le roi est là, je le disais tout à l'heure, le roi fait jaillir la louange, on ne peut pas rester muet. La Bible nous dit que c'est de l'abondance qu'il y a dans notre cœur, hein, que la bouche, elle se met à parler. Et donc il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Et là, Jésus, il pointe même pas une histoire d'émotion négative, il pointe même pas une histoire d'un silence parce qu'on est tranquille et qu'on peut juste être respectueusement silencieux devant lui dans ce contexte du passage. Il est juste en train de dire, il y a forcément une réponse physique qui doit se passer. C'est simple, c'est pas plus spirituel que ça. Il y a forcément une réponse physique à cette louange qui jaillit. Elle est évidente. Alors, j'ai envie de nous dire, pourquoi est-ce qu'on reste parfois si haut pas haut dans notre cœur quand on loue? Pourquoi est-ce que parfois on n'ouvre pas notre bouche physiquement pour louer ou pour prier? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne doit pas y avoir de silence devant Dieu. Ok? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de nous inviter, les amis. Pourquoi est-ce que parfois, physiquement, je ferme ma bouche? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que je peux louer par la connaissance. Ça peut être une source de ma louange. Je loue parce que je sais que Dieu mérite d'être loué. Je loue parce que je sais qu'il est le roi. Je loue parce que je sais qu'il est le Messie. Je loue par la connaissance que j'ai de Christ. La connaissance que j'ai de mon Dieu triple. Donc on peut louer par la connaissance. On peut louer par les émotions. Je recherche dans mes émotions, il y a quelque chose qui boue. Oh Seigneur, j'ai de la joie, oh j'ai la paix. Je ne suis pas en train de négliger tout ça. Hein. Tout ça, c'est important. La connaissance de Christ, nos émotions, tout ça sont importantes. Mais quand on parle d'un kratzo, j'aimerais juste nous dire que la seule vraie louange, le seul vrai kratzo qui peut naître de nous, il naît de la révélation que l'Esprit nous accorde. Et ce n'est pas notre connaissance, et ce n'est pas nos émotions qui vont conduire quoi que ce soit. C'est cette révélation que l'Esprit nous accorde. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons reconnaître que Christ est roi. C'est parce que l'Esprit révèle ça en nous. Et même notre louange, et ça c'est une super nouvelle, elle nous est donnée par Dieu lui-même. Ça veut dire, et là ça continue de m'enlever une pression sur les épaules, ça veut dire que je n'ai rien à produire. J'ai juste à répondre. Et là aussi, ce n'est pas la même chose. Je n'ai rien à produire. Je n'ai pas de louange à créer. Et Dieu, il dit que même si j'ai plus de mots, l'Esprit exprime à notre place, à l'intérieur de nous, avec nous. Alors, il ne le fait pas à notre place. Hein. Et Farid, il a commencé avec un verset tout à l'heure dans Romains 8, verset 15, où il a dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous savez quel est le mot pour crier là ? Kratzo, encore une fois. Est-ce que vous aviez déjà réalisé que dans ce verset-là, il est question de vocifération, de « Abba, Père ». Ce n'est pas juste « Oh, Abba, Père ». Je ne me moque pas. Je veux juste nous faire toucher. Que dans ce verset-là, il est question de quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. La source, elle va chercher bien plus profondément que dans ma connaissance ou que dans mes émotions. Elle va venir chercher dans mes tripes, dans ce que l'Esprit révèle au plus profond de moi. L'Esprit qui me donne de dire « Abba, Père !» Ça n'a pas besoin d'être, on ne le mesure pas en décibels, le kratzo, on le mesure en profondeur. Alors comprenez-moi bien, je ne nous invite pas à produire une louange, je ne nous invite pas à juste crier plus fort ce matin. Je nous invite à répondre avec authenticité, avec profondeur, avec humilité, par l'esprit, en esprit et en vérité. C'est ça que les adorateurs, c'est ça les adorateurs que le Père recherche. Par l'esprit et de manière complètement authentique. Oui, Seigneur, je veux kratzo devant toi. Révèle encore, Saint-Esprit, élargis. Alors, il y a des barrières devant nos bouches parfois. Oui, en ce moment, il y a des masques. Hein? Ouais, mais c'est une réalité. Hein? Il y a des masques en ce moment, et puis on a des barrières, elles peuvent avoir de nombreux noms. Elles peuvent porter de nombreux noms. Et je ne voudrais pas rentrer dans les noms que peuvent prendre ces barrières-là devant nos bouches, la honte, la gêne, la passivité, la lassitude. Il y a l'orgueil, parfois. Il y a plein de choses. Plein de noms que pourraient prendre ces barrières devant nos bouches et qui font que physiquement, j'ai du mal à ouvrir ma bouche, notamment en communauté devant les autres, quand on est rassemblés ensemble en tant que peuple. Mais j'aimerais dire une chose ce matin, les amis, c'est qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms que peuvent avoir ces barrières-là. Et qu'il n'y a aucune de ces barrières dont le nom est tellement puissant que Jésus n'a pas de prise contre lui. Vous savez comment les murailles de Jéricho sont tombées ? Avec persévérance, déjà parce qu'ils ont obéi à quelque chose d'extrêmement bête, vous ferez 7 fois le tour de la ville, ok, on obéit. Donc la persévérance, l'obéissance, la persévérance, mais qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? Au son des trompettes, kratzo! Et ces murailles qui historiquement, on le vérifie aujourd'hui, étaient réputées pour ne pas pouvoir tomber, ne pas pouvoir être ébranlées de par leur épaisseur complètement démesurée, de par leur profondeur dans le sol, complètement démesurée, là aussi, c'est une des forteresses les plus puissantes qu'il ait pu exister sur cette terre, historiquement parlant. Au son du kratzo, au son du nom de Christ célébré en espérance, hein, du Dieu, de ce Yahvé, à ce nom-là, les murailles tombent. Alors à ce nom-là, les murailles de nos bouches, elles vont tomber aussi. Et ces fleuves d'eau vive qui sont là, au fond de nous, par l'Esprit, sont répandues au milieu de nous. Et on peut tous en profiter. Voilà une espérance complètement incroyable. Et donc, pour conclure, je vais reciter juste quelques points. Dieu n'a pas besoin de notre louange. C'est important. On ne lui enlève rien en ne louant pas. Et on ne lui ajoute rien en louant. Mais Dieu recherche notre louange. Il la recherche, il l'attend. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est notre raison même d'exister. Alors, je nous invite à ne pas rester muets, à ne pas rester si haut pas haut, à faire en sorte que nos bouches, elles ne soient pas fermées physiquement, mais qu'elles soient ouvertes. Répondons, les amis, à ce que l'Esprit révèle en nous de qui est notre roi des rois. Répondons simplement. Ne produisons rien. Répondons. Et pour ça, on doit juste laisser aller. J'ai dit, le roi fait jaillir la louange. En esprit. Parce que l'Esprit fait jaillir des fleuves d'eau vive de nos cœurs. Alors laissons simplement aller. Laissons aller. Et le Saint-Esprit va exprimer une louange à la gloire de Dieu au milieu de nous. Soyons vibrants, soyons vivants, élevons des cris, dansons, célébrons vraiment du plus profond de nos cœurs notre Dieu glorieux. Et j'aimerais terminer juste en vous lisant un psaume que je ne pouvais pas me retenir de lire ce matin, et je m'arrêterai après ça et j'inviterai Anto et l'équipe à nous donner l'occasion de pouvoir répondre concrètement à ça. Psaume 96, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Et dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il est venu, mais il revient et il continue d'être là au milieu de nous. Il vient, oui. Il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Oh Seigneur, merci pour cette fidélité complètement incroyable. Merci pour ce cadeau tellement précieux de l'Esprit répandu sur nous qui nous révèle juste l'immensité et la gloire de notre Dieu qui mérite un credo éternel depuis nos bouches. Amen. 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 Merci à tous. Et je laisse la place tantôt l'équipe.